Avec le 19e siècle, et aujourd'hui avec Chateaubriand, une nouvelle sensibilité se met en place, et sans doute aussi, Henri Van Lier, une nouvelle écriture et une nouvelle diction, c'est-à-dire un autre univers de discours.
Tous les univers que nous avons rencontrés jusqu'ici étaient plutôt délimités. Même quand Rousseau dit le flux et reflux de cette eau, son bruit continu, eh bien, il travaille sur un lac, travaille sur un étang, sur des étendues qui sont quand même pas infinies. Et voici que tout d'un coup, en 1802, c'est un autre ton. Et nous entendons tout à coup pénétrer dans ces forêts américaines aussi vieilles que le monde. Quel profond silence dans ces retraites quand les vents reposent. Quelle voix inconnue quand les vents viennent à s'élever. Êtes-vous immobile, tout est muet. Faites-vous un pas soupir. Et voilà que tout d'un coup commence le règne de l'immensité, de la non-mesure, l'immense. Êtes-vous, avec cette prise de fond, êtes-vous des choses assez sombres, immobile. En deux temps, on est quasiment obligé de prononcer les deux M pour avoir cette espèce de marche-pied qui nous conduit du premier I au second. Immobile. Tout est muet, avec cette hésitation entre synérèse et diérèse, entre muet et muet, avec cette reprise du tout, et puis tout d'un coup, cette espèce de disparition de toute sonorité dans la gorge cette fois, et pas seulement dans les choses. Faites-vous, reprenant le « de muet, faites-vous un pas, c'est-à-dire la voyelle la plus dense, et nous allons reprendre le premier mouvement de « Êtes-vous immobile dans tout soupir ? » C'est Chateaubriand. Voilà que s'ouvre quelque chose d'autre. La nuit s'approche, les ombres s'épaississent, on entend des troupeaux de bêtes sauvages passer dans les ténèbres. On dirait que l'être humain, au lieu de se trouver dans un temps et un espace qu'il domine, tout d'un coup est comme dissous dans quelque chose où d'ailleurs il va y avoir des surgissements vrais, des choses qui ne sont pas décidées de toute éternité et que nous allons appeler dans le sens forme du terme des événements. L'événement, c'est ce qui vient en dehors de, ce qui sort de quelque chose qui n'a jamais été là avant et d'autre part qui va disparaître. Et comme il y a de véritables événements, de véritables surgissements, la nuit s'approche, les ombres s'épaississent, on entend des troupeaux de bêtes sauvages passer dans les ténèbres. La terre murmure sous vos pas, quelques coups de foudre font gémir les déserts, la forêt s'agite, les arbres tombent, un fleuve inconnu coule devant vous. Non, en fait, non, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir à la fois, dans une déambulation, la forêt s'agite, les arbres tombent, un fleuve inconnu coule devant vous. Et c'est ce qu'il va y avoir de neuf dans la situation. C'est que le monde devient tellement immense, il devient tellement non délimité dans l'espace et le temps, il y a tellement de véritables événements, de vrais surgissements et de vraies disparitions, que vous ne savez plus jamais si vous êtes dans la réalité ou bien dans l'imaginaire. L'imaginaire n'est pas quelque chose d'autre que la réalité. Ce n'est pas quelque chose qui est au-delà de la réalité. À partir du moment où il y a de véritables événements, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transformation, c'est-à-dire du passage d'une forme à une autre, et ça c'est en quelque sorte impensable pour nous. Impensable dans le sens que nous disposons des choses dans notre environnement, un environnement où tout est établi. Non, précisément, si vraiment quelque chose apparaît et puis quelque chose disparaît, quand est-ce que c'est là? Quand est-ce que ce n'est plus là? Qu'est-ce qui est le réel? Qu'est-ce qui est l'imaginaire? Et en fin de compte, nous arrivons, pour employer une formule plus simple, c'est à une espèce de réalité imaginaire ou un imaginaire qui est lui-même réel. La Lune, ah, la Lune va devenir évidemment l'astre par excellence. C'est l'astre par excellence de ce flottement entre imaginaire et réel. La Lune sort enfin de l'Orient à mesure que vous passez au pied des arbres. Bon, je ne fais plus remarquer évidemment tout le jeu qui est parti des pas, maintenant de passer sur arbre, tout le travail autour des A. Elle semble maintenant, bon bien sûr c'est le A qui devient nasal, errer devant vous, le muet errer devant vous dans leur cime et suivre tristement vos yeux. Mais il ne s'agit pas de pure mélancolie, il s'agit justement de cette sorte d'indécision bizarre. Et peut-être qu'ici, nous la sentons bien pour l'espace, aussi je voudrais que nous la sentions de manière plus claire, plus simple, plus naïve, pour le temps. Et voilà que Chateaubriand, toujours lui, se promène, non plus en 1802 dans le génie du christianisme, mais dans l'itinéraire de Paris à Jérusalem un peu plus tard, il arrive aux ruines de Sparte, et ceux d'entre vous qui ont été à Sparte savent l'émotion très particulière qu'on a devant ce lieu, où en fin de compte Sparte, où est-ce ? On arrive, on dit, mais où est-ce ? Eh bien, personne ne peut dire où c'est. Des ruines de toutes parts, et pas un homme parmi ces ruines. Je restais immobile, tiens encore, dans une espèce de stupeur, à contempler cette scène. Un mélange d'admiration et de douleur arrêtait mes pas et ma pensée. Le silence, encore, était profond autour de moi. Je voulus du moins faire parler l'écho dans des lieux où la voix humaine ne se faisait plus entendre, et je criais de toute ma force, « Léonidas !» Aucune ruine ne répéta ce grand nom, et Sparte même sembla l'avoir oublié. Sainte-Beuve dit méchamment, « Léonidas, c'est sublime, et si ce n'était pas sublime ?» Mais peu importe que ce soit sublime ou pas sublime, que ce soit de bon goût ou de mauvais goût, en tout cas ça fait bien passer ce nouveau temps, ce temps qui est complètement différent, par exemple, de celui de Bossuet. Quand Bossuet veut dire que les générations partent, qu'est-ce qu'il dit ? Cette recrue continuelle du genre humain. Je veux dire les enfants qui naissent, à mesure qu'ils croissent et qu'ils s'avancent, semblent nous pousser de l'épaule et nous dire « Retirez-vous, c'est maintenant notre tour ». Il vit bien dans un monde où il y a des tours, c'est autour de chacun, mais le monde comme tel est délimité. À partir de maintenant, à partir de 1800, nous vivons dans un monde de véritable transformation, les enfants ne sont plus les mêmes enfants, des choses se remplacent. Alors, nous allons essayer en quelques instants de dire quels sont les événements, c'est le cas d'employer le mot, qui ont pu se passer et qui ont amené l'être humain à cette nouvelle perception de l'espace et du temps. Mais il y a bien sûr eu d'abord la Révolution. La Révolution américaine, la Révolution française, Chateaubriand peut dire, j'ai vu mourir Louis XVI, j'ai vu mourir donc 7 ou 8 siècles-là, comme ça. Et j'ai vu mourir Bonaparte. Donc c'est cette immensité, comme il dira, le souffle le plus puissant qui animait une poitrine humaine. Bon, j'ai vu mourir Louis XVI et Bonaparte. Mais ce qu'a propre la Révolution française, c'est que c'est un événement qui, justement, si vous permettez le mot, événementialisé. C'est une révolution qui se parle. C'est la première fois que dans le début des révolutions avant, c'est la première fois que dans l'histoire humaine, une révolution va se parler quasiment de minute en minute. Et donc être l'événement vécu de manière événementielle. Mais il ne s'agit pas seulement en 1800 de cette transformation saisissante qu'est la révolution sociale. Tout ça vient s'inscrire sur une toile de fond beaucoup plus large, et qui est l'évolutionnisme. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement maintenant les sociétés humaines qui sont capables de transformation d'un passage d'une forme à une autre. C'est toutes les espèces, là où on avait vu un monde stable, un monde immobile en quelque sorte, avec des enfants qui se poussent et qui disent « Retirez-vous, c'est maintenant notre tour », tout d'un coup, l'univers entier de la vie apparaît comme une suite de transformations. Pour Lamarck, il y a un immense champ qui est la matière. La matière est inerte, nous explique-t-il très clairement. Et dans ce champ, qui est beaucoup plus large que la nature intervient. Mais elle est quoi, la nature? eh bien, elle est simplement un ordre de choses, créé par le suprême auteur, et qui va donner lieu à des espèces, mais qui vont sortir l'une de l'autre. C'est-à-dire que donc l'idée de transformation, c'est plus simplement la transformation des modes, la transformation des mots, des transformations superficielles. Non, ce qu'il y a de plus profond, de plus essentiel, le tissu de la vie même, est transformation. Donc deuxième chose, la révolution elle-même prenant sa consistance, ou en tout cas sa résonance exacte, sur un fond d'évolutionnisme généralisé. Il y a une troisième chose, tout aussi extraordinaire. C'est le démarrage de l'énergie. C'est-à-dire quoi? Eh bien, pendant tout le XVIIIe siècle, il y a déjà la machine à vapeur. Mais dans la machine à vapeur du XVIIIe siècle, c'est la nature qui pousse le piston et la force de la vapeur ne fait que repousser le piston. Nous restons toujours dans l'ordre naturel de l'exploitation que, par exemple, une voile ou un moulin à vent peuvent faire du vent. Eh bien, un peu avant 1800, dans la machine droite, ce système passe tout d'un coup à une autre situation. Non seulement la vapeur va repousser le piston, mais par un système de tiroir, peu importe maintenant, c'est elle aussi qui va le pousser. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, toute énergie va devenir quasiment indéfiniment multipliable. Balzac va noter, tout journal qui n'augmente pas sa masse d'abonnés, quelle qu'elle soit, est en décroissance. C'est le monde de la machine de Watt. Un monde de la multiplication. Et non seulement la machine de Watt est une machine d'énergie, mais elle est aussi une machine d'information, au sens des physiciens, c'est-à-dire de la mise en forme. Il y a dans la machine de Watt un certain régulateur qui comprend un feedback. Mais là, il ne faut pas trop insister, parce qu'en fin de compte, les êtres humains ne s'en rendent pas compte. Il va falloir attendre Maxwell, il va falloir attendre 70 ans, 80 ans, pour dégager ce qu'il y a de fort là-dedans. Mais je voudrais quand même encore ajouter ceci, il y a donc cette machine, et puis il y a l'évolution, il y a la révolution, et il y a aussi, parce que là, les contemporains n'en reviendront pas, c'est la chimie. Et pourquoi la chimie? Parce que la chimie est quelque chose, je ne dis pas d'impensable pour l'être humain, mais de très difficilement pensable. La mécanique, on comprend, ça va, les actions de Descartes, les actions de Sade, qui change la tuyauterie des organismes, tout ça va bien. Mais la chimie, là, ont lieu de véritables transformations. Et cette idée de transformation d'événements est tellement énorme que quand Mène de Biran, à la même époque, a introduit maintenant l'idée du moi, le fameux moi qui va vivre à peu près pendant tout le XIXe siècle, jusqu'à Bergson, c'est un moi qui, lui aussi, est un moi évolutionniste. C'est un moi qui sort sans arrêt de l'animalité et qui se reprend sur elle. Ainsi donc, une perception toute neuve a surgi, celle de l'événement. Et quels événements? Eh bien, je dirais, d'abord, les événements quelconques. Et je prends au hasard, dans Chateaubriand, dans les Mémoires d'Outre-Tombe, après son voyage d'Ostende, Madame de Chateaubriand fit une course à Anvers. Pour un passage, justement, banal. Elle y vit, dans un cimetière, des âmes du purgatoire en plâtre, toutes barbouillées de noir et de feu. Ah bon, singularité. On ne va rien justifier d'ailleurs. À Louvain, elle me recruta un bègue, savant professeur qui vint tout exprès à Gand pour contempler un homme aussi extraordinaire que le mari de ma femme. Effectivement, la catégorie de l'extraordinaire va commencer à jouer. Il me dit, illustre. Et Chateaubriand note, bon, il y a les deux L bien sûr, puis trois T, et deux R. Sa parole manqua à son admiration et je le priai à dîner. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est simplement l'esprit voltairien? Ce flamand est bizarre, il dit illustre. Il y a une drôlerie. En même temps, c'est une drôlerie qui arrive, comme on dit, c'est bien tapé, c'est-à-dire qu'il résume en un mot à peu près toute la Flandre, avec son admiration, avec son type de prononciation, etc. C'est affolant de ce point de vue. Mais c'est pas ça qui est intéressant. Je continue d'ailleurs. Quand l'helléniste eut bu du curaçao, sa langue se délia, nous nous mîmes sur les mérites de Thucydide que le vin nous faisait trouver clair comme de l'eau. À force de tenir tête à mon hôte, je finis, je crois, par parler hollandais. Du moins, je ne me comprenais plus. Ah bon? Madame Scarron, dans la vie de Rancé, elle va d'abord les bâtards de Louis et de Madame de Montespan dans une maison isolée, au milieu de la plaine de Vaugirard. Alors c'est le petit détail concret, mais qui n'a absolument rien de réaliste, qui est justement événementiel, ce qui lui fournit l'occasion de voir Louis, dont elle parvint à devenir la femme, Scarron, premier mari là donc, fut chargé de la sorte d'une grande destinée, les nègres nourrissent pour leur maître d'élégantes créatures du désert. Alors je ne commente pas, parce que si l'on voulait commenter les nègres nourrissent pour leur maître d'élégantes créatures du désert, il nous faudrait sans doute une heure. Il y a une dizaine de dimensions là. Alors, bien sûr, deuxième grand événement, saisi, en 1800 en tout cas, c'est le christianisme. Tout d'un coup, ce christianisme qui est là depuis 18 siècles, eh bien on va le voir justement comme un événement, comme une singularité, comme quelque chose qui n'est pas véritablement prévisible, qui crée de nouvelles formes, et justement un nouvel espace et un nouveau temps. Avec beaucoup d'erreurs, Chateaubriand, on dira plus tard, tout ce que j'ai dit des arts dans le génie du christianisme est étriqué et souvent faux. Mais je vais tout droit au grand événement maintenant, à l'événement des événements pour les contemporains, et qui est quoi? Eh bien, c'est de la chair humaine, c'est un système nerveux, c'est un cerveau, un système cérébro-spinal, qui porte nom Bonaparte. Alors, est-ce que nous allons traiter simplement ici comme un thème événementiel pour celui qui s'intéresse à l'événement et qui est Chateaubriand, ou bien est-ce que lui-même n'entre pas pour finir dans une histoire de langagière de la littérature? Alors, remarquons en tout cas ceci, c'est que jamais sans doute un homme ne s'est trouvé dans la situation à l'égard du langage qui fut celle de Napoléon. Mais laissons-le parler tout de suite. Un homme public, et dans les grandes affaires, un ministre, ne doit pas s'écrire l'orthographe. Ses idées doivent courir plus vite que sa main. Il n'a le temps que de jeter des jalons. Il faut qu'il mette des mots dans des lettres et des phrases dans des mots. C'est ensuite au scribe de débrouiller tout cela. Vous me demanderez, mais pourquoi est-ce que vous lisez recto tono? Probablement pour toutes sortes de raisons. Mais il y a entre autres cette raison, c'est qu'il dicte, normalement. Il marche, il va de droite, de gauche, il lance. Des mille questions qui divisent d'opinion et d'intérêt. Il faut qu'on comprenne aussi, il ne s'agit pas de monter, de descendre. Le prolétaire et le propriétaire, la valeur des blés est celle où ils sont le plus en opposition d'intérêt. C'est logiciel. Et peut-être l'unique sur laquelle le gouvernement doit toujours favoriser les prolétaires contre les propriétaires. Sans quoi, tyrannie de la part des propriétaires et révolte de la part du peuple. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous avons affaire à un langage qui est bien entendu ce qu'on appellerait aujourd'hui un langage conatif. C'est-à-dire un langage qui pousse quelque chose, comme dans les impératifs. C'est un langage qui est tout entier un impératif, puisque tout ce qu'il dit ici est immédiatement exécuté. Ce sont des véritables constructions en actes. Et d'autre part, on pourrait dire que ce langage est performatif. Hein, quand je dis « je jure que » ou « je décide que ». Or, chacun des mots qui sont dits ici sont des mots décidants. En plus, la personne qui décide a une force de création tout à fait particulière. Donc, chaque mot de Napoléon est absolument singulier. Nous n'avons plus rien de César. Nous n'avons plus rien d'Alexandre. Nous n'avons rien du grand Condé qui nous permette de voir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est là, qui décide, qui prend des cinquantaines, des centaines d'ordres au cours d'une bataille, mais aussi de quelqu'un qui, par jour, prend des décisions à peu près toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure, prend une décision qui engage non seulement un pays, la France, mais qui engage l'Europe pendant 16 ans. Alors, de plus, ce qui est passionnant, c'est qu'étant donné sa position, il peut se payer le luxe de faire de la politique fondamentale. c'est-à-dire de dire quelle est la nature profonde du pouvoir, ce qu'à peu près aucun homme de pouvoir ne peut faire. On ne conduit le peuple qu'en lui montrant un avenir. Un chef est un marchand d'espérance. Et ça continue comme ça. J'institue la Légion d'honneur. Ben, un autre serait obligé de dire j'institue la Légion d'honneur pour récompenser les mérites des citoyens, etc. Écoutez, je défie qu'on me mette une république ancienne ou moderne dans laquelle il n'y ait pas eu des distinctions. On appelle cela des hochets. Eh bien, c'est avec des hochets que l'on mène les hommes. On croirait que Montesquieu, quoi, hein? Mais évidemment, avec pas simplement une constatation, comme chez Montesquieu, mais véritablement cet aspect, je répète, conatif et performatif. Je ne dirais pas cela à une tribune, mais dans un conseil de sages et d'hommes d'État, on doit tout dire. Je ne crois pas que le peuple français aime la liberté et l'égalité. Les Français ne sont point changés par 10 ans de révolution, ils sont ce qu'étaient les Gaulois, fiers et légers. Ils n'ont qu'un sentiment, l'honneur. Il faut donc donner de l'aliment à ce sentiment-là, il leur faut des distinctions. Voyez comme le peuple se prosterne devant les crachats des étrangers. Les crachats, c'est les décorations. Hein. Voyez comment le peuple se prosterne devant les crachats des étrangers. Donc, institutions de la Légion d'honneur. Alors, en plus de ça, il a tout le sens de la construction du personnage de l'homme d'État. Ceci est extraordinaire. Je lis dans les journaux que l'on me fait écrire à ma mère une lettre dans laquelle je dis que je serai à Milan dans un mois. Cela ne peut pas être dans mon caractère. Bien souvent, je ne dis pas ce que je sais, mais il ne m'arrive jamais de dire ce qui sera. Je désire que vous fassiez mettre à ce sujet une note dans le moniteur sur le ton de la plaisanterie. Et pour bien vous montrer que nous sommes ici dans l'événement, dans la force, la découverte de l'événement, je trouve ceci. Bien sûr, c'est toujours dans des billets au ministre de l'Intérieur. Avec des règles générales, on n'arrive à rien. Il faut agir comme les siècles. Nous aurions dit, avec des règles générales, on n'arrive à rien. Il faut agir avec les siècles. Il faut être de son temps. Non, il faut agir comme les siècles. Exactement comme la nature de la marque, là-bas, l'ordre des choses travaille en transformant la matière et en ne sachant pas très bien ce qu'elle va faire. Et bien sûr, donc, il faut tout construire comme un grand poème. La tragédie échauffe l'âme, élève le cœur, peut et doit créer des héros, sous ce rapport peut-être. La France doit à Corneille une partie de ses belles actions. Aussi, s'il vivait, je le ferais prince. Et nous pouvons enchaîner alors. Revenons à Chateaubriand maintenant. Donc, Chateaubriand va se trouver devant cet événement des événements qui est Napoléon. Et qu'il peut d'ailleurs bien comprendre, parce qu'il ne faut surtout pas s'imaginer Chateaubriand comme une espèce de littérateur, un monsieur assis à une table, ou bien comme disait la fameuse anglaise, là, hein, éternellement citée, « Monsieur de Chateaubriand porte son cœur en écharpe ». Oui, il porte son cœur en écharpe, mais il avait 60 ans, je crois, quand il doit faire la traversée de France en Angleterre. Il y a une tempête qui se déclenche, et notre Chateaubriand ne se possède plus, commence à crier comme un fou sur le pont, il se met à danser, et puis il monte au mât. Il a plus de 60 ans. Il a commencé aussi, il a été ambassadeur, il a dirigé une guerre comme ministre. Bon, non, il faut bien voir cet homme. Ce sont ces gens qui ont un contact avec la réalité forte. Ce ne sont donc pas du tout, c'est pas du tout des écrivains en chambre. De la réunion de ces remarques, il résulte que Bonaparte était un poète en action. C'est peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est peut-être à peu près ce qu'on a dit de plus intelligent sur Bonaparte. Bonaparte était un poète en action. Alors le reste est plus banal, évidemment. Un génie immense dans la guerre, un esprit infatigable. Et ça, c'est une des choses stupéfiantes, justement, dans cette littérature, c'est de voir ces décisions qui viennent, je le répète, quasiment d'heure en heure et presque de minute en minute. Habile et sensé dans l'administration, un législateur laborieux et raisonnable. C'est pourquoi il a tant de prise sur l'imagination des peuples. Et j'ai tellement insisté parce que pendant 50 ans ou 60 ans, la littérature française va vivre de quoi ? Elle va vivre de Bonaparte, de Napoléon. Sur l'imagination des poètes, étant d'autorité sur le jugement des hommes positifs, mais comme politique, et il va alors lui faire des reproches en tant que politique. Le 3 mai, Napoléon se fit administrer l'extrême onction et reçut le Saint Viatique. Alors là, vous allez voir la légende qui se crée, évidemment, hein, en même temps que de la superbe littérature. Le silence de la chambre n'était interrompu que par le hoquet de la mort mêlé au bruit régulier du balancier d'une pendule. L'ombre, avant de s'arrêter sur le cadran, fit encore quelques tours. L'astre qui la dessinait avait de la peine à s'éteindre. Alors, c'est tout ce glissement dont nous avons parlé entre réel et imaginaire, ou imaginaire réel, le 4. La tempête de l'agonie de Cromwell s'éleva. Presque tous les arbres de Longwood furent déracinés. Enfin, le 5. À 6h-11 du soir, au milieu des vents, de la pluie et du fracas des flots, Bonaparte rendit à Dieu le plus puissant souffle de vie qui jamais anima l'argile humaine. Ce qui est étonnant, c'est de voir comment Chateaubriand perçoit bien que Bonaparte n'est pas un phénomène isolé. Comment c'est toute une époque. Si les bulletins, les discours, les allocations, les proclamations de Bonaparte se distinguent par l'énergie, cette énergie ne lui appartenait point en propre. Elle était de son temps. Elle venait de l'inspiration révolutionnaire qui s'affaiblit dans Bonaparte parce qu'il marchait à l'inverse de cette inspiration. Danton disait « Le métal bouillonne. Si vous ne surveillez la fournaise, vous serez tous brûlés. » Saint-Just disait « Osez !» Ce mot renferme toute la politique de notre révolution. Ceux qui font des révolutions à moitié ne font que se creuser un tombeau. Les bulletins de Bonaparte s'élèvent-ils au-dessus de cette fierté de parole? Parce que pour Chateaubriand, Bonaparte n'est pas un grand écrivain, n'est pas un écrivain. Pourquoi ça? Parce que lui est ce qu'on pourrait appeler un écrivain somptueux. Il y a toujours eu deux grandes lignes d'écrivains. À côté de somptueux, il y a ce qu'on pourrait appeler brutalement les dégraissés. Napoléon est un dégraissé. Et j'ai essayé de montrer, nous allons en retrouver un bientôt dans Stendhal, j'ai essayé de montrer comment, justement, par ce dégraissement, il crée un phénomène langagier absolument unique dans l'histoire de l'humanité. Mais ce n'est pas seulement à la Révolution française que ces événements renvoient. C'est somme toute à toute l'Europe. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que pendant que Chateaubriand est en train de parler comme ça, Beethoven est en train de faire une musique qui, pour la première fois, est une musique qui devient. La musique de Mozart n'a pas pour objet de devenir, ni celle de Jean-Sébastien Bach. Pour la première fois, à l'intérieur de la composition musicale, il y a une succession d'événements. Et c'est la même chose dans la poésie de Keats, de Shelley, de Byron. Il y a là un mouvement global, ce que les Allemands appellent un Zeitgeist. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, à un moment, c'est toujours comme ça dans l'histoire, tous les êtres d'une époque participent globalement d'une même topologie, d'une même relation fondamentale à l'espace et au temps.